Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe, moins Pierre, qui est parti à Cannes déjà, le festival qui commence mardi prochain. On l'embrasse, mais bonsoir à tous les quatre, vous qui êtes restés.
Bonsoir, bonsoir Babette.
Émilie, votre choix de l'actu du jour.
Retour sur une des rumeurs les plus folles qui a empoisonné la campagne d'Emmanuel Macron de 2017, mais une rumeur qui a aussi fait une autre victime collatérale. Mathieu Gallet,
qui était à l'époque le président de Radio France. Il en parle dans un ouvrage. Il est ce soir notre invité. Il sera sur le plateau dans quelques instants. Mohamed, votre story du jour.
Hier, pendant le match entre l'OGC Nice et l'AS Saint-Etienne, des supporters niçois ont insulté la mémoire d'un joueur décédé, Emiliano Sala, un chant parodique abject qui crée un scandale dans le football français.
On y revient dans votre story. Et Patrick, votre édito ce soir.
La sécheresse est déjà là en France. Une grande partie du pays... Les sols sont asséchés, ce qui va compromettre les récoltes, notamment pour le blé. Et on va se demander, je vais essayer de répondre à la question, est-ce que c'est lié au réchauffement climatique?
Vous répondrez à la question sans que je vous houspille, Patrick?
Oui, je vais répondre.
Et puis on en parlera avec Christiane Lambert, la patronne de la FNSEA, le principal syndicat de l'agriculture. Elle sera dans un instant sur notre plateau. Mathieu, dans le 5 sur 5 ce soir.
Y a-t-il un pilote dans l'avion? Incroyable histoire. Imaginez, vous êtes à bord d'un avion privé, petit coucou, un Cessna en l'occurrence, et le pilote fait un malaise.
Oh là là,
quel passager ici est capable de poser l'avion? On raconte l'histoire dans le 5 sur 5.
Ben grand suspense ce soir. En tout cas, ils sont arrivés à bon port.
Tout va bien, sinon j'en rirai pas.
Exactement, évidemment. C'est dans le 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Nos invités du dîner, l'écrivain Sylvain Tesson qui sort un nouvel ouvrage et Annick Cogent, grand reporter au Monde qui compile toutes ces interviews, cette formidable série qu'on guette à chaque fois avec impatience dans le Monde. Et comment j'en suis arrivée là? Voilà, et si... Oh, je me souviens plus du titre.
Comment
êtes-vous arrivé là? Il y a un si quelque part.
Oui.
Mais c'est à chaque fois passionnant avec des grandes personnalités.
Je ne serais pas arrivé là.
Si, merci Patrick. Des grandes personnalités féminines interviewées par cette grande reporter du Monde autour du dîner préparé par Abdel Alaoui. C'est lui qui me perturbe, c'est Abdel. Ah, c'est la tagine de poulet qui sent tellement bon qu'on est déconcentré.
C'est ça, je vais vous faire un petit tagine de poulet. Déjà, ça fait plaisir de vous retrouver, ça faisait longtemps. Un petit tagine de poulet au citron confit avec du poulet, de la coriandre bien fraîche, des petites olives vertes et ces petits citrons Belvi confits qu'on va jeter comme ça dans la marmite et on va laisser cuire tranquillement.
Et puis demain, il y a couscous.
Et demain, couscous, bah oui.
Le couscous vendredi, d'Abdel couscous. Pour le vendredi de C'est à vous. À tout à l'heure, chef. 15 départements sont déjà soumis à des restrictions d'eau, mais aucune région n'est épargnée. Chaque jour qui passe, on voit des sols se craqueler et tout laisse à penser que la sécheresse pourrait être record cette année. De quoi provoquer l'inquiétude des céréaliers les plus touchés par l'absence de pluie. Exemple dans le Loiret, avec Julien Donne qui scrute désespérément le ciel devant la caméra de Louis Amar et Camille Schmitt pour C'est à vous.
Bonjour Julien, ça va?
Très bien.
En ce moment, on fait grand soleil. Demain, gros soleil. Après-demain, pareil. Malheureusement, les nuages sont poussés par le vent. Donc l'espoir aussi qu'il pleuve est repoussé chaque matin. Les feuilles sont toutes recroquevillées, pointantes. C'est assez sec. Malheureusement, sans pluie, on peut peut-être atteindre les 30% de rendement en moins.
Et 30% de rendement en moins, c'est 30% de chiffre d'affaires en moins.
Exactement, c'est du chiffre d'affaires direct, donc ça peut représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros sur l'exploitation.
Pour limiter la casse, vous disposez d'un système d'irrigation, ça vous sauve.
Toute la journée et la nuit, le canon arrose la parcelle de blé, et puis tous les matins, je déplace mon roller jusqu'à temps que la parcelle soit finie.
Et normalement, c'est pas le cas à cette période.
Normalement, on déclenche l'irrigation un peu plus tard en saison et rarement sur du blé, plutôt sur des cultures d'été type betterave maïs. Depuis 3 semaines, je fais que ça, même le week-end. Là, on n'est plus dans une situation à utiliser l'irrigation pour produire. On est là pour limiter la casse sur la perte de rendement. Si on n'a pas d'eau dans les prochains jours, effectivement, ça sera de plus en plus stressant.
Bonsoir Christiane Lambert.
Bonsoir.
Présidente de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. C'est le syndicat majoritaire dans la profession agricole. Vous aussi, vous scrutez nerveusement la météo?
Oui, tous les jours. Tous les jours, nous constatons le déficit de pluie, donc qui a commencé sur novembre-décembre et qui s'est amplifié sur janvier, février, mars, avril. Nous avons dans certaines régions 40% de pluviométrie en moins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau en surface, mais pas d'eau non plus en profondeur. Donc c'est une double sécheresse interne et superficielle.
Avec une question qu'on pose tout de suite, est-ce que oui ou non cette sécheresse est liée au réchauffement climatique? C'est le sujet de l'édito de Patrick Cohen. Je répète donc la question, sécheresse et chaleur sont-ils liés au réchauffement climatique?
Alors disons d'abord que le phénomène n'est pas inédit. La France a déjà connu de grands épisodes de sécheresse en 76, en 89, en 2003 et 2011. Et le plus récent, en 2018-2019, où le pays avait connu le même manque de pluie, soit un déficit de précipitation de 20% depuis septembre. Déficit, vous l'avez dit, aggravé ces trois derniers mois, moins 30 à 40% en février et mars, moins 25% en avril, et particulièrement en Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, dans le Massif central, une partie de la Bourgogne, du Grand Est et des Hauts-de-France. Là, on est dans une situation qui, d'après Météo France, se produit en moyenne une année sur 25. Et déjà, vous l'avez dit aussi, Babette, 15 départements, notamment en Bretagne et en Provence, ont mis en place des restrictions d'eau.
Mais si les sols sont aussi secs, c'est également parce qu'il fait chaud.
Oui, des températures pas exceptionnelles, mais inhabituelles à cette période de l'année. Plus de 30 degrés par endroit hier, chaleur qui devrait se poursuivre jusqu'au milieu de la semaine prochaine et sans doute au-delà pour l'été qui arrive. Toujours selon Météo France, le scénario le plus probable pour l'été, 50% de probabilité et la poursuite des conditions plus sèches et plus chaudes que la normale, ce qui empêche le remplissage des nappes phréatiques. D'après le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, les pluies d'avril ne se sont que peu infiltrées dans les nappes à cause de la hausse des températures et de l'évapotranspiration. C'est l'eau qui s'évapore par le sol et la transpiration des végétaux. Et même s'il pleuvait dans les mois qui viennent, l'impact de ces pluies serait limité sur ces nappes qui ont commencé leur vidange dès janvier-février avec 2 à 3 mois d'avance.
Mais vous n'avez pas répondu à la question.
Non.
Tout cela est-il lié au changement climatique, Patrick?
Pour le manque de pluie, non. Mais pour les sols asséchés par la chaleur, sûrement. Vous savez que les scientifiques spécialistes du climat sont d'ordinaire réticents à attribuer au réchauffement tous les événements extrêmes, inondations ou sécheresses, incendies, cyclones, etc. Ils ont souvent expliqué qu'il ne fallait pas confondre la météo et le climat, mais un consortium de scientifiques travaille justement à distinguer ce qui relève de l'aléa et ce qui tient au dérèglement. Le World Weather Attribution a donc publié hier un document qui est une sorte de guide à l'usage des journalistes et de l'opinion publique et qui dit en substance, pour la sécheresse et les inondations, leur fréquence, leur durée, leur intensité sont accentuées par le réchauffement, mais le lien n'est pas systématique. En revanche, tous les épisodes de chaleur, de forte chaleur, portent déjà l'empreinte mesurable et caractéristique du réchauffement de la planète. Toutes les canicules sont liées au changement climatique et donc forcément ont un impact sur la situation que l'on vit actuellement en France.
Les agriculteurs français sont donc face aux premiers effets du réchauffement climatique.
Oui, et double phénomène, effectivement, manque d'eau et forte chaleur. Hier, j'étais au Creusot, il faisait 29 degrés. Donc début mai, c'est quand même assez invraisemblable. Même aujourd'hui à Paris, nous avons plutôt des chaleurs estivales. Et le mois de mai, c'est un mois charnière pour l'agriculture, pour la nature en général. C'est le moment où la nature redémarre. Les plantes apprécient le soleil. En général, il y a des réserves d'eau et c'est là qu'il y a les croissances les plus importantes. Pour le blé, par exemple, l'épi est en train de monter dans la tige. Ça s'appelle la montaison. Donc l'épi se forme et les grains sont déjà prêts. Mais s'il manque d'eau, il s'arrête. Et les grains ne se rempliront pas. Et comme l'a dit l'agriculteur, ça va déjà amputer une partie du rendement potentiel de ces cultures.
Jusqu'à 30% de perte des récoltes, c'est ce que vous imaginez aussi?
Dans certaines régions, oui. Quand il y a des sols de faible profondeur et qui ont donc des faibles réserves hydriques, il y a un vrai déficit. Lui, il arrose et il le dit, c'est une chance, mais il n'y a que 6% des terres de culture qui sont irriguées en France. C'est très, très peu. Donc, ça ne touche pas que la France. Les États-Unis sont également sous le soleil. Bien d'autres zones de production Il n'y a finalement que la Russie, c'est assez cynique et injuste, hein, mais il n'y a que la Russie qui a des températures clémentes et qui va avoir une récolte de blé record.
Ça veut dire qu'on doit s'attendre à une pénurie de blé? C'est ce qu'on entend beaucoup, ce mot non, de pénurie, non faut,
on ne peut pas parler de pénurie encore. Les 15 prochains jours sont déterminants. Vous savez, quand on est agriculteur, on est optimiste de tempérament. Et il ne faut pas paniquer tout de suite. Le ciel peut nous amener des orages, des pluies fines. Par contre, les orages, s'ils viennent trop fort, ils choquent le sol, mais ils ne pénètrent pas suffisamment. Donc, ça humecte la couche superficielle, mais ça ne produit pas l'humidification dont on a besoin. Regardez les images, comme elles sont saisissantes. C'est vert au-dessus, c'est bas, c'est craquelé. Ça, c'est quand même exceptionnel au mois de mai.
Quelles autres cultures pourraient être affectées par cette
absence
de pluie?
Alors, les prairies. Les prairies, puisque nous avons 13 millions d'hectares de prairies, la moitié de la surface française, c'est très important pour l'élevage. Et les prairies qui commencent à sécher en ce moment, c'est pas bon du tout parce que c'est la pleine période de pousse d'herbe. Les agriculteurs font du foin, font de l'ensilage, font des réserves pour l'hiver. Et en général, la pousse de printemps représente 70% du potentiel de production d'une prairie. Donc si c'est affecté de façon importante, c'est une baisse importante de fourrage. Qui dit pas de fourrage, il faut trouver des alternatives. Parce que les vaches ont besoin de manger, tous les herbivores ont besoin de manger. Et même s'il y a des aides, elles ne mangent pas des billets de banque. Il faut trouver du fourrage en quantité. Y en aura-t-il en France ou c'est toute la question.
Le gouvernement semble vouloir prendre les choses en main. Jean Castex s'est déplacé, je crois, aujourd'hui dans le Vaucluse pour rencontrer les agriculteurs, annoncer un plan sécheresse. Mais déjà fin avril, le gouvernement avait annoncé que les agences de l'eau pourraient dépenser 100 millions d'euros supplémentaires pour aider les filières agricoles à s'adapter au changement climatique, à créer des retenues d'eau. Et lundi, le ministère de la Transition écologique a annoncé 20 millions supplémentaires pour aider les agriculteurs à faire face à ce changement climatique. Mais c'est là tout de suite maintenant qu'ils ont besoin d'eau?
Bon, ce sont des budgets pour investir. Ce n'est pas d'argent sonnant et trébuchant. C'est pour faire des réserves d'eau. C'est bien. Il faut aussi que les réglementations s'adaptent, puisqu'en France, pour créer une réserve d'eau, il faut 10 ans. Parce que les procédures sont longues, lourdes. Il y a toujours 1, 2, 3, 10 opposants. Et donc, c'est compliqué. La France ne met en réserve que 1,7% de l'eau de pluie. 1,7. L'Espagne, 20%. Les pays qui ont le plus augmenté leur réserve d'eau sur les 10 dernières années, c'est les Pays-Bas, le Danemark, des pays qui sont bien au-dessus de nous. Donc en France, on a un retard de stockage.
On n'a pas été assez prévoyant.
Alors on n'a pas été prévoyant. Ça fait des années que la FNSEA et tous les agriculteurs le demandent, mais nous avons des opposants qui veulent la nature naturelle et qui refusent de voir
l'impact de ce changement. Oui, il y a des manifestations contre les retenues d'eau.
Oui,
etc.
Mais vous savez,
Sivens, c'était une retenue d'eau.
Sivens, hein, voilà. Et quand on va manquer d'alimentation faute d'eau pour les cultures, on verra les prix flamber, déjà qu'ils flambent aujourd'hui. Et là, je pense qu'il y aura un autre problème, c'est non pas la disponibilité de produits, mais l'accessibilité. Si l'alimentation est trop chère, les plus précaires vont souffrir davantage. Et pour certains pays, ça sera dramatique. Le Maroc vient de débloquer 1 milliard de dirhams pour faire des ouvrages hydrauliques parce que justement, ils ont une sécheresse encore plus dramatique que la nôtre. Espagne, Portugal, Occitanie, ça remonte de partout. Donc, la mise en réserve de l'eau hivernale, vous avez fait des reportages sur les pluies diluviennes, on les a tous en mémoire. Ces villes inondées, ces champs recouverts. Pourquoi ne stocke-t-on pas cette eau quand elle est en excès? Il suffit d'une heure de flux de la Loire à Angers pour arroser tout le Maine-et-Loire, et ses plantes, ses fleurs, ses pépinières, ses légumes, etc. Une heure quand il y a le flux le plus important en hiver. Et malheureusement, ça n'est pas permis. Donc le Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique, une des dernières décisions de M. Castex, poussée par la secrétaire d'État à l'écologie, Mme Abba, et M. de Normandie, vise à faciliter la création de réserves d'eau. Mais il y a urgence, parce qu'on a fait du surplace en France et en Europe depuis 10 ans, plus 10% de réserves d'eau. Donc il faut qu'on rattrape notre retard.
Oui. Dans les particuliers, il y a des restrictions d'eau qui ont été décidées dans une quinzaine de départements. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'on doit demander aux gens, à la population, de faire attention à leur consommation d'eau, d'économiser l'eau courante?
Vous savez, c'est comme le gaz. Hein. Quand on baisse son chauffage d'un degré, c'est 10% d'importation de gaz de Poutine en moins. C'est pareil pour l'eau. Si chacun fait un effort, ne pas laver sa voiture, peut-être ne pas arroser tous les parterres des villes aussi souvent qu'avant, avec parfois des fuites aussi. Et puis surtout, réparer les fuites. Il y a 25% de fuite de l'eau par un réseau d'eau mal entretenu. Donc je pense que nous sommes à l'heure de la rareté de la ressource dans tous les domaines, de l'eau aussi. Et il faut que tout le monde fasse des efforts. Les collectivités pour réparer les conduites, l'État aussi, et tous les particuliers aussi. Puis il y a un autre phénomène, c'est la multiplication des piscines. Je ne sais pas si vous allez de temps en temps à Toulouse ou à Bordeaux en avion.
Chez les particuliers?
Oui. Il y a une augmentation phénoménale du nombre de piscines.
Nous sommes les champions du monde, les champions d'Europe.
Oui, il y a eu pas mal d'articles l'année dernière quand nous avions une sécheresse également. J'avais regardé ces chiffres-là et c'est assez saisissant.
Donc en gros, soyez civique,
baignez-vous moins.
Pensez... Remplissez quand même vos piscines.
Oui, il ne faut pas plonger dans une piscine vide, ça ne se fait pas. Mais la multiplication des piscines, sans réfléchir à l'approche globale du partage de l'eau, nous avons des organismes uniques de gestion de l'eau. Nous partageons l'eau déjà aujourd'hui. Depuis une quinzaine d'années, avant c'était open bar, c'est plus du tout ça. On partage l'eau et quand elle est rare, on la partage. Et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc il faut vraiment penser mise en réserve de l'eau quand elle est super abondante l'hiver. Tous les pays le font. La France a du retard, rattrapons notre retard.
Vous parlez de la flambée des prix. Aujourd'hui, vous avez participé à une réunion de suivi autour des négociations commerciales sur les prix alimentaires. Et les échanges se tendent entre votre syndicat et les supermarchés. Ce matin, Michel-Édouard Leclerc a réaffirmé qu'il n'acceptait pas ces hausses de prix. Une position qu'il défend depuis des semaines, notamment sur le plateau de C'est à vous, c'était le 22 avril dernier.
Je ne suis pas contre la loi Egalim, je ne suis pas contre la dernière mouture qui consiste à privilégier la rémunération des agriculteurs. Mais je n'ai jamais compris pourquoi, quand on vend du chocolat, du jus d'orange, du café, du coca, on veut faire croire qu'en vendant plus cher ces produits-là, ça obligerait les distributeurs à mieux rémunérer les éleveurs laitiers ou de viande. Je trouve qu'avec la remontée de l'inflation, qui ne fait que commencer de monter. Ce genre de disposition, il faut la faire la chanter.
Cette disposition, c'est les fameux 10% de marge que doivent obligatoirement faire les distributeurs. Vous vous dites que c'est hypocrite,
oui,
cette position de Michel-Édouard Leclerc ?
Oui, c'est très hypocrite, bien sûr. Les marges brutes de Michel-Édouard Leclerc, le ministre lui a dit dans les yeux à son représentant la semaine dernière, c'est 25% de marge. Donc déjà, qu'il rogne sur ses marges à lui, ça sera mieux pour les consommateurs. Pourquoi ces 10% ont-ils été créés ? Parce que les distributeurs, tous qui se font la guerre des prix, faisaient marge zéro sur les produits d'appel. Le Nutella, le Coca-Cola, les M&M's, les steaks hachés, 1 kg, 15% de matière grasse, les produits emblématiques qui appellent les clients. Et s'ils faisaient 0% sur ces produits-là, ils faisaient 40% sur les pommes du Val-de-Loire ou sur les cocos de Paimpol. Donc la difficulté, c'était de dire... La réalité, c'est de dire aux distributeurs... Vous appliquez 10% minimum et vous faites un rééquilibrage des marges pour ne pas assommer les PME. Les PME n'ont pas les mêmes moyens pour se défendre que Unilever ou Nestlé. Et la difficulté, c'est qu'il joue, parce qu'il sait très bien qu'il est leader numéro un et que la guerre des prix est sa culture préférée.
Oui, lui, son obsession, c'est de vendre moins cher. En tout cas, c'est le marketing.
Et sur les 8 dernières années, nous avons perdu un point de prix chaque année. Moins 1%, ça fait moins 8% sur les 8 dernières années. Pour la première fois cette année, grâce à la loi, plus 3%. Et là, nous avons besoin de hausses supplémentaires. Ce matin, ce qui a été présenté, c'est les hausses des produits. Plus 93% sur l'énergie, plus 151% sur les engrais, plus 79% sur le prix du gaz.
Plus pour vos producteurs, pour vos agriculteurs.
Pour nous, pour produire, plus 25% sur l'alimentation des animaux. J'élève des porcs. 70% de la dépense pour élever un porc, c'est le coût de l'alimentation. Quand ce poste-là augmente de 25%, nous avons besoin de passer des hausses. Sinon, nous n'équilibrons pas les comptes, nous travaillons à perte, les exploitations disparaissent, tout le monde s'en désole, mais n'empêche que quand on fait ses courses, vos emplettes sont vos emplois et les nôtres. Il faut accepter de payer son alimentation au juste prix. Et M. Leclerc dit, oui, mais le pouvoir d'achat des plus démunis. OK, eh bien, faisant le chèque alimentaire, nous l'avons proposé au président Macron, qui le reprend dans ses propositions de président désormais, pour que les 5,5 millions de plus précaires puissent être aidés, s'ils sont ayant droits sociaux, mais que ceux qui ont les moyens de payer leur alimentation, qui gagnent 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 et plus euros par mois, payent leur alimentation au juste prix. En France, on fait plus de bien-être, plus d'environnement, plus de tout, et on a l'alimentation la moins chère d'Europe. Plus 4,5% d'inflation alimentaire en France, plus 7% en Europe, plus 12% dans certains pays, plus 15% en Amérique du Sud. Nous sommes le pays de l'alimentation pas chère, nous sommes le pays qui tue les exploitations agricoles et les industries agroalimentaires à cause d'une tyrannie des prix bas imposée par 6 distributeurs. C'est quand même terrible.
Même s'il faut des prix les plus bas possibles pour les Français les plus précaires.
Bien
et les plus
sûr, débiles. Mais il faut le chèque alimentaire pour qu'ils puissent
des
tenir
aides ciblées.
Des aides ciblées. Tout à fait, c'est le bon terme.
L'autre pénurie à craindre, c'est celle de viande de poulet, même des œufs, à cause de la nouvelle épidémie grippe aviaire qui sévit, elle, depuis 3 mois. La plus grave crise sanitaire de l'histoire, selon la filière française, c'est ce qu'ils disent, qui parle d'une crise aussi violente qu'inattendue. Pourtant, ce n'est pas la première, et c'est ce qu'a voulu rappeler le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.
5 épidémies de grippe aviaire, pas une, 5. À la première, ils auraient pu se dire, bon, ça n'a pas de bol. À la deuxième, tiens, on aurait dû y penser. À la troisième, ah, quand même. À la quatrième, il est temps de faire quelque chose. On est à la cinquième. Qu'est-ce qu'il compte faire? Rien. Je parle sérieusement. La grippe aviaire, c'est 20 millions de volailles qui ont été sacrifiées. Vous savez qu'aujourd'hui, 80% des oiseaux vivants, c'est de la volaille d'élevage, qui vit dans les conditions que vous savez. Alors vous dites, bon, d'accord, c'est regrettable, il n'a pas tort, Mélenchon. Enfin, nous ne sommes pas des canards. Bah si, ça se pourrait bien. Parce qu'en Chine, le virus, il est passé du canard à un être humain. Alors, qui c'est qui a envie d'essayer?
C'est pas vrai.
Votre réaction à ce que dit Jean-Luc Mélenchon, vous étiez en train de dire, c'est pas vrai?
Non, mais c'est pas la première fois que M. Mélenchon dit des bêtises, surtout à propos de l'agriculture. Il a dit des aberrations la semaine dernière à propos de la sécheresse et des rivières. Il faut que M. Mélenchon apprenne aux canards à lire. Peut-être est-il plus intelligent que les autres. Les oiseaux migrateurs ont des couloirs de migration. C'est-à-dire quand ils descendent, ils empruntent un couloir survolant la France à tel endroit. Et quand ils remontent de leur migration, ils survolent par un autre couloir. Cette année, d'habitude, ils s'arrêtaient dans le sud-ouest, Pyrénées-Atlantiques, Landes, Gers. Là, ils sont remontés vers les pays de la Loire. Il y a les étangs de Grandlieu, les zones humides, c'est propice. Et comme il faisait beau et chaud, eh bien, ils se sont arrêtés. Ils n'avaient pas besoin d'aller ailleurs. Ils se sont arrêtés. Et c'est la faune sauvage qui a contaminé les animaux d'élevage. Et pas l'inverse. Les animaux sont élevés dans des bonnes conditions en France. Et Dieu sait si nous sommes contrôlés, surcontrôlés, recontrôlés. Donc, il dit des bêtises. Et aujourd'hui, malheureusement, il a fallu abattre tout par principe de précaution. Et aussi pour préserver les parents, c'est-à-dire ceux qui font les œufs pour ensuite faire les canetons, les oiseaux, etc., etc. Donc, c'est facile de balancer ça sans expert et sans connaissance. Tout le monde peut faire ça, mais c'est pas sérieux parce que ça affole les populations. Et surtout, ils posent un sujet, mais ils n'apportent pas du tout les bonnes réponses. Donc, la vaccination est aujourd'hui testée. Le ministre de l'Agriculture l'a portée aussi au niveau européen parce qu'on ne peut pas, nous, tout seuls, le faire en France. Il faut que l'ensemble des pays européens l'acceptent. Et il faut que l'Organisation internationale de la santé l'accepte aussi pour pouvoir exporter nos animaux. Aujourd'hui, un pays qui vaccine ses animaux ne peut pas les exporter. Donc, il faut faire évoluer parce que le changement climatique change les flux d'oiseaux et impose de nouveaux comportements.
Ce que dit aussi Mélenchon, et c'est une proposition qu'il porte régulièrement dans le débat public, il a beaucoup porté dans la campagne présidentielle et encore dans ses derniers discours, c'est la fermeture des fermes-usines. Ouais. Pas seulement pour les volailles, mais pour toutes les catégories d'animaux. Mmh. Est-ce qu'il y a des fermes-usines en France?
Mais que M. Mélenchon aille en Amérique du Sud, où il a pas mal d'amis du même parti politique, là-bas, il y a des fermes-usines. Et des 10 000, 12 000 vaches en plein air.
Et en France?
Sans aucune protection. En France, la taille moyenne d'un élevage de vaches laitières, c'est 62 vaches laitières.
Oui, moyenne.
Taille moyenne. La plus grande, elle a 300 vaches. 300, 400 vaches. Mais il y a 4 agriculteurs qui travaillent. Oui, la ferme de 800 vaches n'existe plus. La plus grande ferme qui détient des vaches, et qui a des vaches dans un bâtiment, elle a une autorisation.
Et pour les porcs?
Mais pour les porcs, ça dépend qu'est-ce que vous comptez. Si vous comptez les truies, c'est-à-dire les mères, il y a un certain nombre. Chez moi, j'en ai 235. Oui. Mais si vous comptez tous les petits, parce qu'on fait naître les porcelets, on les élève jusqu'à 6 mois et demi, donc en ce moment, il y en a 3000. Mais tous dans des très bonnes conditions, dans des bâtiments appropriés, chauffés, climatisés et appropriés à leur âge et à leur comportement. C'est ça la réalité de l'élevage français. Et dans les bâtiments modernes, le mien entre autres, les animaux sont dans des conditions de bien-être. Et beaucoup de gens les ont visités. Même Louis Schweitzer, le président de la Fondation du droit des animaux, voyez-vous. Il n'avait jamais visité une porcherie. Il est venu chez nous.
Dans le Maine-et-Loire.
Il était scotché de voir que nous avions des animaux. Chaque catégorie a un logement approprié, une alimentation appropriée. Les choses sont faites correctement. Sauf qu'au lieu de parler sur une tribune, ayant refusé de venir voir la FNSEA au Salon de l'agriculture, parce qu'il n'est jamais venu à notre rencontre, il nous boycotte, et bien voilà, il dit des bêtises, tant pis pour lui.
Merci beaucoup Christiane Lambert, présidente de la FNSEA et agricultrice, donc dans le Maine-et-Loire, d'être venue ce soir sur le plateau de C'est à vous.
Merci à vous.
Émilie, c'est l'histoire d'une rumeur qui a empoisonné la campagne électorale d'Emmanuel Macron il y a 5 ans, une fake news qui aurait fait une victime collatérale. Celui qui, à l'époque, était président de Radio France, Mathieu Gallet, et qui aujourd'hui a décidé de parler. Retour donc, Émilie, sur une des bulles puantes de 2017.
D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la rumeur, c'est une particularité de la campagne de 2017. Tous les candidats ont eu leur lot, mais la cible numéro 1, ça reste Emmanuel Macron. Ça a été quantifié par les journalistes du Monde à l'époque, car le banquier, le candidat du système, comme il était appelé, était attaqué par tous les autres camps dits traditionnels, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Marine Le Pen.
J'espère qu'on n'apprendra rien dans les quelques jours ou quelques semaines. Personne n'a compris les explications que vous aviez données sur votre patrimoine, en l'occurrence.
Oh, le fisc et la haute autorité l'ont compris. Voudrais... Il n'a pas compris sur le vôtre, il l'a renvoyé au juge.
Le président de la haute autorité, qui est un ami de M. Hollande,
il l'a renvoyé au juge,
par hasard, et qui a appelé à voter pour lui en 2012. J'espère qu'on n'apprendra pas que vous avez un compte offshore aux Bahamas ou je ne sais pas, j'en sais rien.
Non, Madame Le Pen, parce que ça, c'est de la diffamation.
Non, non.
Voilà, suffisant pour lancer la rumeur du fameux compte offshore d'Emmanuel Macron. Les rumeurs se répandent vite. Une autre, rappelez-vous, durant l'entre-deux-tours, Emmanuel Macron se rend sur le site de Whirlpool et un reproche lui est fait à plusieurs reprises par des ouvriers. De toute façon, vous refusez de serrer la main. Rumeur qui vient en fait de là, cette vidéo que vous allez voir, séquence où l'on voit Emmanuel Macron se laver les mains après avoir visité un marché. Or, la séquence a été coupée, remontée et ne montre pas que juste avant, Emmanuel Macron avait pêché une anguille à la main. Jusque-là, le candidat n'usque d'une méthode, celle de la colombe que la bave du crapaud n'atteint pas. Il ne répond donc que très rarement. Vous n'en parlez pas, la rumeur va s'éteindre. Sauf une, celle qui va finir par le faire sortir de son silence, celle persistante sur les réseaux sociaux et qui touche à la vie intime. On dit le jeune candidat en couple avec Mathieu Gallet, jeune PDG de Radio France à l'époque, à tel point que son conseiller numérique de l'époque, Mounir Majoubi, confie « Quand vous regardiez les recherches faites sur Google, Macron gay, Macron Gallet commençait à se rapprocher de Macron programme ou Macron économie. » C'est ce qui va pousser Emmanuel Macron à passer à l'offensive et à rendre publique la rumeur.
Si dans les dîners en ville, si dans les boucles de mail, on vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet ou qui que ce soit, c'est mon hologramme qui soudain m'a échappé, mais ça peut être moi, je ne le connais pas.
Bonsoir Mathieu Gallet.
Bonsoir.
Président de Radio France de 2014 à 2018, président fondateur aujourd'hui de la plateforme de podcast Magellan. Vous publiez donc « Jeu de pouvoir, la vérité sur une affaire politico-médiatique » dans lequel vous évoquez donc cette rumeur qui vous revenait à l'époque régulièrement aux oreilles, avant même qu'Emmanuel Macron n'en parle en meeting. Une rumeur qui était plus seulement un bruit du microcosme parisien, mais un potin colporté partout sur le territoire jusqu'à La Rochelle, où votre tante se retrouve à un dîner à devoir démentir l'information.
Exactement, ce n'était pas une rumeur parisienne, de dîner parisien, c'est une rumeur vraiment qui était sur tout le territoire. Il y a cette anecdote que je partage de ma propre tante qui est dans un dîner où les gens se font mousser pour dire, vous savez, moi en fait, je sais que Emmanuel Macron est gay. Et d'ailleurs, il est avec le président de Radio France et ma tante les laisse parler. Et à un moment, elle dit, vous savez, Mathieu Gallet, c'est mon neveu. Et je connais sa vie privée, je peux vous dire que ce n'est pas Emmanuel Macron, son petit ami.
La situation devenait donc gênante, mais vous avez laissé courir la rumeur et vous n'avez pas apprécié qu'Emmanuel Macron démente publiquement cette rumeur sans vous prévenir.
Je n'ai pas laissé courir la rumeur, j'ai laissé au fond à Emmanuel Macron le soin de la dégonfler et l'extrait que vous avez passé, je pense, était la bonne méthode, c'est-à-dire la prendre par la dérision, avec l'humour. Mais moi, je n'étais qu'un instrument. La cible, c'était lui. Et on se souvient que les réseaux russes, notamment Sputnik et autres, ont beaucoup relayé sur les réseaux sociaux cette rumeur. Donc moi, finalement, j'ai laissé passer. Lui a très bien traité l'affaire. Ce que j'ai reproché, au fond, ce que je reproche, c'est qu'il m'appelait le lendemain pour me dire, bon, j'ai parlé de nous, ce qui était assez drôle, parce que ce nous n'existe pas, on n'est pas proches, on s'est croisés, évidemment, mais voilà, on n'est pas des copains et j'aurais préféré qu'il me le... Et
d'ailleurs, vous décrochez pas parce que le téléphone...
Oui, c'est un numéro, s'affiche pas c'est un sur numéro le masqué. C'est vrai que j'aime pas les appels numéro masqué.
Mais le candidat a eu raison de crever l'abcès, d'autant que la rumeur était teintée autant d'homophobie que de misogynie. Sur le thème, un mec qui sort avec une vieille, c'est clair qu'il n'est pas hétéro. C'est le genre de propos qu'a entendu votre tante lors de ce dîner. Hein. C'est sa meilleure amie, mais c'est une couverture pour faire respectable. Ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, certains y croient toujours.
Ah, les gens y croient toujours. Et ma propre grand-mère, à ce moment-là, je le raconte dans le livre aussi, reçoit une boucle de mail. Ben, quand Emmanuel Macron parle des boucles de mail, ça, ma propre grand-mère, un jour, m'appelle. Elle me dit, écoute, mon chéri, j'ai reçu un mail. On dit qu'il y a des photos de vous qui vont sortir. Je voulais te prévenir. Et c'est vrai que ça avait pris une ampleur incroyable. On va, avec mon équipe de Radio France, dans la Silicon Valley, en février 2017, pour ce qu'on appelle une learning expérience. expédition, on va rencontrer les grandes entreprises de la Silicon Valley. On arrive chez Google, on est très bien reçu. Et donc, Google vous montre ben voilà, Radio France. Et puis, alors, tout d'un coup, on voit une croissance mais exponentielle des requêtes sur Google Radio France, plus Mathieu Gallet, plus Emmanuel Macron, parce qu'on est 15 jours, je crois, après la séquence de Bobineau. Donc, c'était devenu quelque chose de vraiment très important que Emmanuel Macron a su dégonfler. Et après, on est passé à autre chose. Mais le problème d'une rumeur, c'est que les gens, ils ont toujours envie d'y croire. Même quand c'est basé sur rien, les gens avaient envie d'y croire.
Il y a même eu des paparazzis qui ont planqué devant chez vous.
Oui, il y a des paparazzis qui ont planqué devant chez moi. Et finalement, c'était peut-être la meilleure preuve, c'est dire, ben non, il n'y a pas de... Il y a un des fondateurs de Mediapart, je le dis, qui est aussi un ami d'une amie, et dans un dîner, rapporte à cet ami, lui dit, tu sais, moi je sais, avec Macron, on m'a dit à Beauvau, donc au ministère de l'Intérieur, et pareil, mon ami me dit, écoute, j'ai démenti, mais il y croyait, mordicus, il disait, mais de toute façon, il y a des photos qui vont sortir.
Selon vous, vous y mettez une hypothèse dans le livre. Elle serait venue des socialistes, de sa propre famille politique, cette rumeur.
J'ai fait ma petite enquête, puisque j'ai laissé le temps passer, et je pense que c'était bien de laisser le temps passer par rapport à ce que j'ai vécu à Radio France, par rapport à mon départ, et la rumeur n'est pas étrangère. Et en fait, en faisant un peu mon enquête, il y a eu un livre très intéressant qui est sorti il y a 2 ans du journaliste d'investigation Marc Andevelde, qui avait creusé cette question. Et c'est vrai que moi, je pense que ça vient plutôt de la famille politique au départ d'Emmanuel Macron, donc la gauche, qui avait vu que c'était un homme ambitieux, qui avait envie, si vous me permettez, de rouler pour lui et pour personne d'autre, et qu'en fait, il a fait peur. Et qu'à la fin des années 2010, il y avait encore des gens pour penser que de répandre une rumeur dégueulasse sur une homosexualité présumée est une façon d'empêcher un homme politique d'accéder à la présidence. Heureusement, la société française est plus intelligente et plus tolérante que certaines personnes politiques.
Victime de rumeurs émanant des rangs socialistes, des socialistes qui vous ont donné du fil à retordre alors que vous étiez président de Radio France à la surprise générale, nommé à 37 ans, ancien patron de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, est considéré comme le protégé de Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture de Nicolas Sarkozy. Ça, le pouvoir l'a... ne l'acceptez pas.
Bah, je suis arrivé j'étais le candidat surprise. En plus, je suis nommé à l'unanimité par le CSA. Le président du CSA était Olivier Schramek à l'époque, donc qui était l'ancien directeur de cabinet de Lionel Jospin à Matignon, donc socialiste aussi. Et tout d'un coup, c'est ce jeune gars de 37 ans qui a fait carrière sous les gouvernements Chirac et Mitterrand qui est nommé. Et donc, c'est vrai que dès mon arrivée, Aurélie Filippetti, qui est la ministre de la Culture à l'époque, le jour de mon élection, m'envoie un SMS. Elle ne m'a même pas appelé, elle m'a juste envoyé un SMS pour me dire bon courage. Donc voilà, l'accueil était assez froid. Et puis surtout, je le raconte dans le livre, très vite, les ennuis commencent, puisque la dotation budgétaire de Radio France va être réduite de 20 millions d'euros sur un budget de 580 millions. Ça peut paraître peu, mais à Radio France, tout est produit en interne. Et Patrick Cohen le sait bien.
Oui, donc, ça a continué depuis, les baisses de dotation.
C'est vrai que ça a continué depuis.
Ça s'est pas arrêté avec votre départ.
Et non, ça s'est pas arrêté avec mon départ. Et donc, c'est vrai que moi, tout de suite, il faut que je prépare un plan de transformation plus fort, plus rapide que celui que j'avais déjà proposé au CSA et sur lequel j'avais été élu. Et puis finalement, la tutelle me lâche puisque je propose des plans, je le raconte dans le livre avec un des deux orchestres de Radio France que je propose de sortir de Radio France, des réductions de postes. Donc il y a une grève qui se déclenche.
Et de façon 28 jours.
28 jours et de façon très opportune, 2 jours avant le début de la grève, il y a l'affaire du bureau. Où le canard enchaîné révèle que les travaux du bureau du président de Radio France ont coûté 100 000 euros. Et moi, je découvre ça dans le canard, et là, je comprends que ça vient de l'interne, et ça m'a été confirmé plus tard par des syndicats qui m'ont dit que c'était d'autres syndicats qui avaient balancé cette info pour m'affaiblir au moment où je lançais cette réforme.
Au 19e jour de grève qui a duré 28 jours au total, Fleur Pellerin, donc votre ministre de tutelle à l'époque, est invitée de la matinale de France Inter, interrogée par Patrick, et elle vous met clairement la pression.
Pourtant, aujourd'hui, et je l'ai dit à plusieurs reprises, que ce soit la présidence et la direction qui reprennent le dialogue social avec à la fois les organisations syndicales et les représentants du personnel. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de pouvoir retrouver le chemin du dialogue et que le projet d'entreprise puisse être partagé et co-construit avec l'ensemble des salariés.
Appeler au dialogue ne suffit pas. La direction de Radio France affirme être allée au bout de ses propositions. Les syndicats réclament satisfaction sur tous les points du préavis. Qui doit céder ?
Je pense que ça fait partie du dialogue social à mener.
Fleur Pellerin était plus du côté des grévistes que du côté de la direction de Radio France.
Ça fait très bizarre de revoir ces images que je n'avais pas revues depuis. Elle était surtout de son côté à elle, puisque quand une grève aussi importante s'installe, il faut bien trouver un responsable. Donc soit c'était la ministre de tutelle qui n'avait pas prévu, qui n'avait pas anticipé, soit c'était le dirigeant que j'étais qui avait mal fait. Donc il fallait qu'il y en ait un des deux qui porte le chapeau.
Est-ce que c'est la démonstration qu'en France, le cordon avec le pouvoir, entre le service public et le pouvoir, n'est pas... assez rompu, vraiment rompu?
Clairement, il n'est pas rompu et je pense que c'est un souci pour l'audiovisuel public. Il faut se battre pour que l'audiovisuel public reste indépendant. Ça passe par le financement et le débat qu'il va y avoir cette année avec la suppression de la redevance, puisque le président candidat l'avait annoncé et donc ça va se faire. Je pense que c'est une occasion pour l'audiovisuel public de se réformer profondément, puisqu'on ne pourra pas continuer à faire de la rustine. On va devoir faire des changements. Plus important, moi je dis dans le livre, je pense qu'aujourd'hui, face aux géants américains des plateformes Netflix, Disney et compagnie, face aussi aux groupes privés TF1, M6, RTL, si la fusion se fait d'ici la fin de l'année, le service public doit se regrouper au sein d'une même entité.
Radio France et France Télévisions doivent fusionner.
Et France Média Monde, et voilà, pour pouvoir être plus fort, pour pouvoir investir davantage dans le numérique, pour pouvoir capter le jeune public, parce que ce qui en fait est le plus gros risque aujourd'hui pour la télévision ou la radio, c'est que les jeunes le regardent et l'écoutent de moins en moins. Donc je pense qu'il y a vraiment une transformation à mener, que finalement on va commencer par des réductions et que ces réductions doivent amener une révolution copernicienne quelque part pour l'audiovisuel public.
Vous parlez, vous dites à quel point il faut savoir résister aux pressions politiques. Dans votre livre, vous ciblez notamment François Bayrou qui décrochait très régulièrement son téléphone.
Ça, c'était une des surprises parce que moi, pendant 4 ans de présidence, donc je suis nommé dans les conditions que vous rappelez, le pouvoir socialiste à l'époque n'est pas très favorable, mais je fais savoir que moi j'ai été élu par le CSA, c'est le CSA qui peut me démettre, il le fera d'ailleurs, pour en parler, et que s'il y a des pressions, je le ferai savoir. Il ne s'est rien passé. François Hollande, honnêtement, a été d'une neutralité complète, et je sais qu'il y a eu pourtant un certain nombre de pressions au moment où j'arrive, où je fais partie des grandes voix de France Inter, notamment. En 2017, François Bayrou est pendant un mois garde des Sceaux, et c'est vrai que c'est la cellule d'investigation de Radio France que j'avais créée à mon arrivée qui révèle l'affaire des assistants parlementaires du MoDem, pour laquelle il est mis en examen encore aujourd'hui. Et il décroche son téléphone pour se plaindre de l'enquête des journalistes de Radio France auprès de Jacques Monin, qui est le directeur de la cellule. Et donc moi, je l'apprends, je tombe de ma chaise, parce que je lui dis, c'est des méthodes qu'on avait un peu oubliées depuis les années Perfit. Et finalement, la chose... Va être rendu public. Moi, je ne choisis pas d'être dans la surenchère. On me propose tout de suite de venir réagir. Je préfère réagir en interne et de dire à Radio France que je serai toujours là comme un bouclier pour défendre l'indépendance du service public et que les pressions, elles n'auront pas lieu tant que je serai à Radio France.
Ce livre est passionnant. Jeu de pouvoir, la vérité sur une affaire politico-médiatique. On se dit que vous tirez un trait sur un quelconque avenir au sein de l'audiovisuel public en parlant aussi franchement.
Je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, j'ai aussi une vraie autonomie. J'ai appris aussi des difficultés que j'ai rencontrées. Je me suis réinventé à 40 et quelques années une vie. Et j'ai effectivement une liberté pour pouvoir dire un certain nombre de choses, mais toujours dans l'intérêt du service public, parce que je reste quand même très attaché, je le dis aussi pourquoi dans ce livre, pour la télévision et la radio publique, qui pour moi sont des pivots, des fondements, des piliers de la démocratie.
Merci beaucoup Mathieu Gallet. Vous restez avec nous parce qu'on a quelques sujets d'actualité à vous soumettre. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi.
Bonsoir Mathieu.
Salut.
Mohamed, des chants de supporters niçois qui font scandale.
Oui, 19h09 hier, 9e minute du match entre l'OGC Nice et l'AS Saint-Etienne. À Nice, une partie du groupe de supporters de la Populaire Sud entonne ce chant. Ce que vous venez d'entendre est une parodie abjecte. Le détournement d'un chant de supporters nantais consacré à l'attaquant Emiliano Sala. À la Beaujoire, à Nantes, on chantait « C'est un Argentin, il ne lâche rien, Emiliano Sala ». Des mots pour honorer sa mémoire. Le 21 janvier 2019, le joueur meurt dans un accident d'avion au-dessus de la Manche lors d'un vol reliant Nantes à Cardiff où il s'apprêtait à signer.
Dans la nuit, l'appareil est porté disparu au-dessus de la Manche. Immédiatement, des recherches en mer sont menées. Toute la journée, deux avions, deux hélicoptères et un bateau ont cherché sa trace, sans résultat.
Avec précaution, les enquêteurs ramènent un corps sur la terre ferme. Mais sans autopsie, impossible pour l'instant de savoir s'il s'agit d'Emiliano Sala ou de son pilote.
Selon le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens, une manœuvre réalisée à une vitesse excessive serait en cause. Elle aurait provoqué la dislocation de l'appareil.
Dans la foulée du match d'hier, l'OGC Nice a condamné les chants, comme l'entraîneur niçois Christophe Galtier, présent en conférence de presse.
On dit que les tribunes sont les reflets de la société. Si c'est ça notre société, ben croyez-moi, on est dans la merde. Je ne vois pas ce que vient de faire la mémoire de quelqu'un qui est décédé dans un accident tragique. Pour moi, c'est surréaliste. Je n'ai pas de mots. Qu'ils restent chez eux. On ne peut pas entendre ça dans un stade. Qu'ils restent chez eux. Si c'est pour insulter des morts, qu'ils restent chez eux. Si c'est pour envoyer des bouteilles, qu'ils restent chez eux. On gagnera sans ces personnes-là.
Christophe Galtier rappelait les incidents du début de saison lors d'un match entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice, l'envoi d'une bouteille sur le joueur de l'OM, Dimitri Payet à l'époque. Hier soir, Nantes jouait son derby face à Rennes. Énorme choc pour les anciens coéquipiers d'Emiliano Sala lorsqu'ils découvrent cette ignominie sur les réseaux sociaux. 4 jours après avoir gagné la Coupe de France face à Nice, déjà, Antoine Comboiré, le coach des Canaries, a exprimé son indignation.
Une rivalité humaine n'a pas de limite, quoi. Puis moi, je suis scandalisé. C'est... Je ne sais pas quoi dire parce que je risquerais d'être très, très violent. Mais ces mecs-là, ils n'ont rien à foutre dans un stade, quoi. Je savais que parfois, les supporters pouvaient être violents, pouvaient être cons. Mais là, ouais, c'est vraiment des ânes, quoi.
Face à la polémique, les supporters niçois de la Populaire Sud, le groupe d'Ultra, ont publié un communiqué lunaire où ils évoquent une erreur énorme ou non, selon la pensée de chacun. Le groupe Ultra comprend l'émoi mais regrette le manque de compréhension du second degré avant de conclure par « on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ». N'importe qui, c'est par exemple le maire de Nice, Christian Estrosi. Il a été choqué par ses propos. Il demande l'ouverture d'une enquête et la diffusion du portrait d'Emiliano Sala ce week-end à Nice, au stade.
Je veux la dignité pour ma ville. Nous n'avons pas à craindre qui que ce soit. Nous sommes les plus forts parce que nous voulons offrir du spectacle. Je suis prêt solidairement avec le président du club, avec l'entraîneur, avec l'encadrement, avec le soutien naturellement des représentants de l'État et du préfet, à ce que nous prenions des mesures qui, la saison prochaine, fassent de nous une référence pour le football français. Moi, je crois que s'il y a une période même de vide, ça pourrait de nouveau nous permettre d'attirer au contraire dans notre stade des familles qui pourraient revenir en se disant on revient dans une ambiance apaisée.
Selon nos informations, les services du procureur de la République épluchent l'attirail judiciaire pour instruire un dossier, mais l'arsenal judiciaire ne prévoit pas grand-chose pour des propos tenus à l'oral dans un stade. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel s'est saisie du dossier. Dans un courrier envoyé à l'OGC Nice, le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, a condamné les propos tenus hier à l'Allianz Riviera.
Merci beaucoup Mohamed Bouafsi pour cette story du jour. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Bonjour à toutes et à tous.
Salut. Mathieu, l'Union européenne insiste sur la portée mondiale du conflit en Ukraine.
Oui, si on a évoqué déjà ce soir l'impact de cette guerre sur nos économies ici, dans le cadre d'un déplacement à Tokyo, la présidente de la Commission européenne a insisté sur la menace russe à l'échelle internationale.
Russia, it is today the most direct threat to the world order with a barbaric war against Ukraine. And its worrying pact with China.
Dans le même temps, le gouvernement finlandais s'est prononcé en faveur d'une adhésion sans délai du pays voisin de la Russie à l'OTAN. On attend la même prise de position de la Suède prochainement. Il s'agit là de deux pays qui traditionnellement sont éloignés des alliances militaires internationales. Sur le terrain ukrainien même, une autre annonce, le temps de la justice déjà. Kiev annonce l'ouverture prochaine d'un premier procès pour crime de guerre contre un jeune soldat russe de 21 ans, Vadim Chichimarin, qui risque la prison à vie. Vous allez le voir, il est accusé d'avoir gratuitement abattu un civil depuis son véhicule, un civil de 62 ans qui circulait à vélo. Plus de 10 000 crimes de guerre présumés ont été recensés, 622 suspects signalés auprès de la procureure générale de Kiev, alors que CNN révèle justement de nouvelles images que la chaîne américaine a analysées, expertisées, des images là aussi d'exécutions de civils. Nous sommes le 16 mars dernier dans une concession automobile. Deux civils que vous voyez fouillés par des soldats russes d'abord, qui leur demandent ensuite une cigarette. Les deux hommes s'en vont ensuite, reprennent leur marche et sont abattus. On leur a tiré dans le dos. L'un des deux se relèvera et mourra dans son bureau voisin. L'ONU annonce lancer une enquête sur les atrocités reprochées aux troupes russes. Le responsable des urgences de Médecins Sans Frontières vient de rentrer d'Ukraine. Il est à Paris. Il était à Paris aujourd'hui. Iban Raïs et Anaïs Roukouli l'ont rencontré et ils lui ont demandé de raconter ce qu'il y a vu.
Il y a un niveau de violence et de destruction qui est très choquant. Il y a toute une zone où les hôpitaux ont été bombardés. Nos équipes ont dû se réfugier, donc il y a eu des moments de violence intense. Sur la question des crimes de guerre, il y a eu ce moment des bombardements où on a été témoin direct, et la surface des bombardements nous laisse penser à des bombes à fragmentation. On n'a pas été les premiers observateurs de ces crimes. Et de façon générale, Médecins Sans Frontières, on n'arrive pas à négocier l'accès aujourd'hui dans les zones qui sont contrôlées par les Russes. De façon générale, on voit quand même qu'il y a un niveau de stress et d'angoisse là, qu'on comprend assez bien. Il y a de plus en plus de villes où les bombardements aléatoires sur les civils se produisent.
Et puis sur le front, l'étau semble se desserrer sur certaines villes ukrainiennes. On a cité éventuellement Kharkiv, mais c'est dans le sud que les Russes concentrent leurs efforts désormais, sur la côte. Et puis plus au sud encore, la fameuse Snake Island, l'île aux serpents dont on a parlé au début du conflit, petite île de la mer Noire, prise par les Russes au début de la guerre. Vous voyez là des images d'attaques d'Ukrainiens sur des positions russes, du coup des images filmées au drone sur ce poste symbolique et stratégique à 35 km seulement de la côte.
On part aux États-Unis à présent avec un sombre record dans ce qu'on appelle la crise des opiacés.
Oui, de la cocaïne, mais aussi des drogues légales, des médicaments qui rendent accro, des antidépresseurs pour lesquels on parle déjà d'épidémie depuis de nombreuses années aux États-Unis, mais dont la gravité s'est amplifiée avec les confinements liés à la pandémie. En 2021, on a dénombré 107 000 décès par overdose, une hausse de 15% en un an après des augmentations de 30% les deux années précédentes.
There are two factors. One of them is all of the stress and the uncertainty that the COVID pandemic brought that made many people vulnerable to drug taking as a way to cope with the stressors. But the other one is during the COVID pandemic, we have seen an acceleration of the distribution of fentanyl all over the United States. And fentanyl is being used not just to be sold by itself, but very frequently sold to contaminate heroin, or more recently to contaminate cocaine and contaminate methamphetamine.
Pour faire simple, 107 000 décès par overdose, c'est un mort toutes les 5 minutes. Aux États-Unis, les opiacés, en 2021, ont tué autant par overdose que le diabète ou la maladie d'Alzheimer.
Plus de deux ans après le début de la pandémie, la Corée du Nord reconnaît son premier cas de Covid.
Oui, et c'est difficile de savoir ce qu'on doit faire de cette information, pour être honnête. Un pays complètement fermé, isolé du monde entier, Pyongyang reconnaît des premiers cas positifs sur son territoire. Et dans la foulée, des mesures de confinement ont été annoncées. Impossible de savoir combien de personnes sont contaminées. Bien sûr, on sait que c'est le variant Omicron, c'est tout. Ni d'où est venu le virus dans le pays qui est totalement fermé. Je vous le disais depuis le début de la pandémie. Tout ce que l'on a, ce sont ces images. Une réunion autour du dictateur Kim Jong-un. Honnêtement, je ne suis pas sûr de l'avoir déjà vu avec un masque, en tout cas pas souvent. C'est là qu'il annonce les mesures de confinement. La communauté internationale s'inquiète particulièrement de ce pays à la population non vaccinée, qui a même refusé le vaccin chinois, et au système de santé vétuste.
Un commentaire de l'ancien patron de Radio France sur ces actualités évoquées jusque-là.
La propagande, en fait, ce qu'on voit sur la bataille des images et de l'information en Russie, bon là, c'est presque risible, même totalement risible. La propagande, donc ce qui pour moi valide l'idée qu'on doit avoir des médias nationaux puissants, indépendants,
On voit plus près de chez nous, en Hongrie, ce qui s'est passé. La réélection de Viktor Orban est quand même très liée au fait que les services publics audiovisuels en Hongrie sont des médias d'État maintenant. Donc vraiment, cette question d'avoir des médias nationaux puissants, indépendants, bien financés pour ne pas tomber dans ce genre de propagande.
Toute autre chose, et ce n'est pas de la propagande, mais un avion a été posé par un passager inexpérimenté en Floride.
Oui, y a-t-il un pilote dans l'avion? Ce n'est pas une formule, ça c'est la vraie question. Hier matin, les contrôleurs aériens de l'État américain, donc en Floride, ont reçu l'appel d'un petit avion privé sans savoir où se trouvait l'appareil. À bord, le pilote a fait un malaise. Vous allez entendre l'enregistrement du cockpit aux commandes de l'appareil. C'est un passager.
No idea how to fly the airplane, but I'm in 9100.
Number 333, Lima Delta, roger. What's your position?
I have no idea. I see the coast of Florida in front of me, and I have no idea.
What was the situation with the pilot?
He is incoherent. He is out.
Number 3, Lima Delta, roger. Try to hold the wings level and see if you can start descending for me. Push forward on the controls and descend at a very slow rate.
Le baptême de l'air.
Le calme des protagonistes de cet incident m'a impressionné.
Et tout ici, c'est comment on maintient donc les ailes
oui.
À l'équilibre. À l'équilibre, merci.
Calme de bout en bout. Ensuite, la tour de contrôle de l'aéroport de Palm Beach a pris le relais pour aider ce simple passager à poser l'avion au sol. Vous voyez l'atterrissage.
Franchement, c'est un bel atterrissage.
Franchement, pas mal.
Ils ont applaudi ou pas à l'intérieur?
Coup de chance. Coup de chance.
Pas applaudir, il avait les mains sur le truc.
L'un des contrôleurs aériens est aussi instructeur de vol. Un coup de chance, il a témoigné ensuite à la télévision américaine.
So they said we need to try to help them land the plane. I knew the plane's flying like any other plane. I just had to keep them calm, point them to the runway, and just tell them how to reduce the power so they could descend to land. Before I knew it, he's like, I'm on the ground. How do I turn this thing off? It felt really good to help somebody, and he told me that he was going to go home tonight to see his pregnant wife.
Voilà, le happy ending américain, il a pu rentrer et retrouver son épouse enceinte. Finalement, ça n'a pas l'air si dur que ça de poser un avion. Je ne sais même pas pourquoi je vous raconte ça.
On termine ce 5 sur 5 avec une page scientifique, carrément, oui. Une page.
Oui, deux belles images, deux découvertes. On commence dans l'espace, Sagittarius A, un trou noir que l'on connaît en réalité, mais qu'on ne voyait pas quelques millions de fois la masse du Soleil au cœur même de notre galaxie. Une photo floue d'un consortium scientifique.
Oui, j'ai fini d'y voir clair.
Oui, mais c'est la première fois qu'on a une photo d'un trou noir dans notre galaxie, donc on est un peu tolérant sur le flou. Alors, pour être très précis, le trou noir, ce n'est pas l'anneau. Hein. Autour du trou noir, il y a ce qu'on appelle l'horizon des événements, un disque de gaz et de poussière qui tourne à toute vitesse. Le trou noir, comme son nom l'indique, c'est le trou noir au milieu de la photo. Du très loin, très haut dans notre galaxie, je reviens sur Terre. Sous la mer, dans les profondeurs de l'océan Pacifique, à quelques 3000 mètres de profondeur, des scientifiques ont cru découvrir, je cite, « la route vers l'Atlantide ». Regardez, écoutez.
Look up to the left there. It's like bricks in a way.
Yeah.
Oh, weird. Yeah.
Okay.
Cobblestone.
Oh, yeah. Whoa. Let's go up and look at that. That is
Roger.
A really unique
structure. And are these like a bunch of crinoids on the floor? On the...
Yes.
Interesting.
Wow.
Look at that.
What is that? I feel like I'm looking at like...
Yeah, it's the road to Atlantis.
Yeah.
The yellow brick road?
This is the yellow brick road.
La route de l'Atlantique, disait le monsieur, hein, pas de l'Atlantique, on est en plein Pacifique, je vous l'assure. Et Yellow Brick Road, référence à la chanson d'Elton John, on est à 3000 mètres de fond. Ce serait en fait les vestiges d'une activité volcanique ancienne, c'est décevant, des roches volcaniques issues du refroidissement de la lave au contact de l'eau qui se briserait justement au moment du refroidissement. Un peu dommage, j'avais envie de suivre cette route.
Et de piloter un avion. Vous avez plein de rêves, Mathieu.
J'ai plein de rêves, je les
mais
partage avec vous tous les soirs.
Qu'un membre de l'équipe de C'est à vous. Merci Mathieu Gallet. Jeu de pouvoir, la vérité sur une affaire politico-médiatique. C'est paru aux éditions
Bouquin.
Voilà, au Bouquin. Puis je rappelle que vous êtes fondateur de la plateforme de podcast Magellan. Merci d'avoir accepté ce soir notre invitation. Dans un instant, Sylvain Tesson, à l'occasion de la sortie de son nouvel ouvrage Noir, des textes et des dessins et une réflexion sur la mort passionnante comme à chaque fois. Puis Annick Cogent, grand reporter au Monde, qui a interviewé des femmes en leur demandant « Vous ne seriez pas arrivé là si ?» sera notre invité dans un instant autour du dîner du tagine d'Abdel Alaoui. A tout de suite.